Ça va? Bien.
Je peux boire un peu d'eau.
Nous sommes dans les périodes de fête et puis c'est intéressant, n'est-ce pas? On dirait qu'il fait chaud dans la maison. Je vois des gens qui font... Ça va aller. Alors, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 2. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis un certain temps, nous étudions ici à l'Assemblée chrétienne du Cap dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons déjà vu l'introduction du livre et les deux premières lettres qui ont été envoyées aux deux églises de l'Apocalypse, l'église d'Éphèse et l'église de Smyrne. Ce matin, en toute humilité, j'ai la grande responsabilité d'apporter la parole, de nous enseigner. Et ma responsabilité est de travailler dans la troisième lettre qui a été envoyée à l'église de Pergame. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant de continuer, j'aimerais que nous regardions l'écriture. On va lire le verset 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu tiens mon nom, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Prions. Seigneur, ce matin, nous venons en toute humilité devant toi afin que tu nous parles. Nous venons de lire ta parole. Ce n'est pas la mienne, c'est ta parole. Glorifie-toi au travers d'elle et enseigne-nous. Dispose nos cœurs et nos entendements. Ce matin, je vais simplement être un instrument entre tes mains. Une trompette qui va sonner pour toi, que toi, tu vas l'utiliser pour ta gloire. Et je ne veux pas émettre un son confus. Je veux donner un son clair afin que ton peuple se prépare au combat. Parle-nous ce matin et tu connais l'état du cœur de chacun des membres ici présents. Et nous prions que ceux qui sont fatigués, que tu les relèves. Ceux qui sont découragés, tu les encourages. Et ceux qui sont malades, que tu les guérisses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de rentrer dans le vif de mon message, j'aimerais que nous regardions un peu l'histoire de l'église de Pergame ou l'histoire de la ville de Pergame. Selon les commentateurs, Pergame était la capitale de la nouvelle province romaine d'Asie, le centre du pouvoir romain, le lieu où résidait le gouverneur romain. Celui-ci avait le pouvoir de mettre à mort les gens et il détenait le glaive. C'est pourquoi nous allons voir que dans ce livre, Jésus se présente à cette église en disant « Je suis celui qui détient l'épée à deux tranchants ». Alors, l'autorité de Christ est plus puissante que l'autorité du gouverneur romain qui effrayait l'église de cette époque. Géographiquement, Pergame était situé à 30 km de Smyrne. Comme Éphèse et Smyrne, Pergame était une ville prospère mais inique, dans leur culte païen, les habitants adoraient Athéna, Asclépio, et Dionysos et Zeus. Zeus, c'est ça? Zeus. Bon, ça c'est le son que je n'ai pas dans ma langue. Vous savez que le français, ce n'est pas ma première langue. Hein? Je l'ai appris, mais vous, c'est votre langue. Donc, soyez tolérants envers moi. Alors, c'est comme ça la ville de Pergame était. Il était aussi reconnu pour ses pour l'idolâtrie qui se faisait dans cette ville-là. Pergame était connu pour cela. Il y avait assez d'idolâtres. Des grands dieux. Zeus était vraiment un grand dieu dont le temple même surplombait toute la ville. Mais ce qui est intéressant, on peut voir aussi que Pergame était une ville qui concurrençait Alexandrie en Égypte. Parce que Pergame avait une grande bibliothèque. Dans sa bibliothèque, il y avait environ 200 000 livres. Au point que les Juifs étaient jaloux de Pergame, ils ont mis un embargo sur le papyrus pour ne pas qu'ils puissent avoir accès à ce document pour pouvoir écrire. Vous savez ce que les gens de Pergame ont fait? Ils ont créé leur papyrus, qui s'appelle maintenant Pergamena. Mais ce qui me frappe dans ça, c'est que dans ce contexte d'idolâtrie, là où il y a le siège et le trône de Satan, là où Satan règne en maître, où il dominait toutes les sphères de cette ville, notre Dieu montre qu'il est un Dieu puissant en faisant naître une église au milieu de l'opposition. L'église de Pergame est née au milieu de cette opposition. On ne sait pas ses origines, on ne sait pas comment ça a été créé, on ne sait pas quels sont ceux qui ont été les premiers chrétiens de cette ville. Mais ce qui est sûr, l'église de Dieu était là, au milieu de cette opposition-là. Comme on peut le dire dans le QG de Satan, dans le quartier général de Satan, Dieu démontre sa puissance. Quand nous regardons dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus parle ainsi à ses disciples. Il dit, je bâtirai mon église et la porte, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Dans la Genèse, Jésus parle encore à Abraham quand il était déjà âgé dans sa vieillesse pour démontrer qu'il est un Dieu puissant, capable de faire ce qu'il veut et que rien ne peut l'arrêter s'il le veut. Il dit à Abraham, il se déclare ou il se présente à Abraham comme étant un Dieu tout puissant. Satan est puissant, mais Dieu est... Et votre tout puissant, André, vous n'êtes pas convaincu, hein? Satan est puissant, Dieu est... Voilà, il faut que ce soit une conviction dans votre cœur. Parce que si vous doutez de cela, il y avait déjà dit qu'il y a un problème. Et Dieu démontre sa puissance dans ce sens-là. Mais vous savez que comme c'est une lettre qui a été écrite à l'église d'Éphèse, quand on lit une lettre est écrite d'une certaine façon. Quand on écrit une lettre, il y a les destinataires, il y a un expéditeur, il y a le contenu, le message, et il y a une conclusion, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons voir ce matin. La lettre est écrite à qui? Les destinataires de ce message, c'est qui? Quand nous regardons le verset 12, il nous parle déjà. Au verset 12, les destinataires, il dit, Jean nous dit que la lettre est destinée aux anges de l'église de Pergame. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit aux autorités de l'église de Pergame. Écrit aux anciens de l'église de Pergame. Écrit au peuple de l'église de Pergame. Donc cette lettre est destinée à l'église et à leurs autorités. L'expéditeur, nous le voyons, c'est qui? Quand on le dit, c'est qui envoie ou c'est qui est le donateur de cette lettre? Il le dit dans le verset 12. Voici ce que dit celui qui il y a l'épée aiguë à deux tranchants. Quand on continue, il s'agit de celui qui détient l'épée à deux tranchants. Jésus se montre comme étant celui qui a l'épée à deux tranchants. C'est du Seigneur qu'il parle ici. Comme j'ai posé la question de qui s'agit-il plutôt. À l'église, Jésus va se présenter de plusieurs manières quand nous regardons. De plusieurs façons, le Seigneur est appelé. Il va se présenter à l'église d'Éphèse comme étant celui qui détient les sept étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. À l'église de Smyrne, il se présente comme étant le premier et le dernier, et celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Mais à l'église de Pergame, Jésus se présente comme celui qui détient l'épée aiguë à deux tranchants. Qu'est-ce que c'est, l'épée aiguë à deux tranchants? C'est quoi? Et quand nous regardons dans l'Ancien Testament, l'épée représentait réellement un instrument de guerre, un instrument de combat, un instrument qu'on pouvait utiliser pour se défendre aussi. Et ça pouvait aussi nous couper. Et dans l'esprit du Nouveau Testament, la parole de Dieu, l'épée, est représentée comme étant la parole de Dieu. La parole de Dieu a deux tranchants, comme on le regarde dans Hébreux 12, verset Hébreux 4, 12, il nous dit, on peut aller le lire ensemble, pour ceux qui ont leur Bible, ouvrez vos Bibles parce que je n'ai pas mis ça ici. Je ne veux pas que vous soyez des paresseux. Ça peut aller? J'aimerais que vous tournez vos Bibles, dans vos Bibles plutôt, Hébreux 4, 12. Il dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature, verset 13, n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui qui a de celui qui nous... Excusez-moi, je ne suis pas venu avec mes lunettes là, mais... De celui à qui nous devons rendre compte. Alors ici, la parole de Dieu, l'efficacité de la parole. Dans ce verset, on ne dit pas que la parole est une épée. On ne dit pas que c'est une épée, mais on dit qu'elle est efficace comme une épée à deux tranchants. Beaucoup de gens ont utilisé ce verset-là pour démontrer que c'est une épée. Mais ce n'est pas une épée ici, mais on dit que c'est plus tranchant. Donc, Dieu lui-même se présente, l'épée à deux tranchants, c'est la parole de Dieu. On peut le voir dans Apocalypse 1, 16 aussi, où le Seigneur parle de cela. Gabriel Paquin, tu peux le lire pour moi, parce que je vieillis là. Bon, il a un bébé dans la mer. Benoît, s'il te plaît, lis-le pour nous. Apocalypse 1, verset 16.
Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche, il sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.
Alors, encore là, Jésus se présente comme étant celui qui a l'épée à deux tranchants. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui a la capacité de donner la vie et de donner la mort. La parole de Dieu qui a la capacité de séparer les boucs des brebis. La parole de Dieu avec laquelle Christ viendra juger ceux qui sont à l'intérieur, les faux docteurs et ceux qui ont fait le compromis avec le monde. Ça, c'est la puissance de la parole de notre Seigneur. Alors, nous voyons cela. On va regarder l'expéditeur, comme nous venons de le voir, c'est Jésus. Et nous pouvons continuer de regarder d'autres passages ensemble. Le contenu. On va regarder le contenu de cette lettre-là. On vient de voir que c'est à Éphèse et à Pergame que la lettre est attribuée. Et celui qui l'envoie, c'est Dieu, Jésus-Christ lui-même, en personne, qui se présente de cette façon. Dans le contenu de la lettre, qu'est-ce qu'il nous dit ? Nous observons deux choses dans le contenu. Premièrement, on voit que Jésus fait des éloges à cette église-là. Même aux deux lettres précédentes, il faisait des éloges à cette église. Mais ici, il se présente, il parle, « Je sais là où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. » Jésus reconnaît la difficulté, les problèmes dans lesquels l'église de Pergame se trouvait. Il n'était pas ignorant de cela. Il ne faisait pas la sourde oreille, ou bien il ne fermait pas les yeux. Il savait, il connaissait leur situation, il connaissait leurs difficultés. Il le dit, je sais où tu demeures. Je sais que là où se trouve le trône de Satan. Je sais que là se trouve le siège de l'opposition. Je sais que là se trouve le siège ou la base des fausses religions. Et je sais que tu te bats aussi. Comme Dieu ce matin sait là où chacun de nous se trouve. Là où ta foi se trouve. Là où se situent les difficultés de ta vie chrétienne. Le combat que tu mènes dans le secret. Le combat que tu mènes tous les jours dans ton travail, Dieu le sait. Il n'est pas ignorant de ça. Et si tu ne mènes pas aussi un bon combat, il le sait. Parce qu'il le dit ici à l'église, je sais où tu demeures. Là se trouve le trône de Satan. Au deuxième point, il vient pour dire à l'église, il fait des éloges. Au sein de Pergame. Il commence avec ceci. Je trouve que Dieu est un bon pédagogue. Il ne commence pas à attaquer par leurs péchés, mais il montre les bonnes choses qu'ils ont faites. Et on nous enseigne que quand tu veux faire une reproche à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On parle de ce qu'il a fait de bien, puis après on vient montrer ce qu'il a fait de mal. Et au Québec, j'ai appris que quand on te donne des fleurs, il faut t'attendre parce qu'il y a le pot qui vient avec après. Hein? Alors donc, ici, Dieu fait des éloges à l'église de Pergame. Il ne dit pas l'église de Pergame est pourrie, d'abord. Il dit à Pergame, il dit, ces éloges qui viennent, il dit, tu retiens mon nom. Nous pouvons regarder le verset. Au verset 13. Il dit, je sais où tu demeures, c'est là où le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc il dit à l'église, tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé l'amour de moi. Tu ne t'es pas dissocié de moi au jour de la persécution. Comme certains le font quand ils sont persécutés, ils diront, oh, moi je ne suis pas chrétien. Je me souviens que mon père spirituel me contait cette histoire quand j'étais né, j'étais venu de naître nouvellement dans le Seigneur et je devais confronter mes parents pour annoncer que je suis devenu chrétien et je savais toutes les conséquences que je pouvais subir après. Mais j'avais peur. Mais il m'a conté cette histoire. Il dit, c'était arrivé dans l'Est, dans l'Europe de l'Est, au temps du communiste. Et on persécutait les chrétiens. Alors, un grand gradé est venu à l'église, puisque les communistes envoyaient des espions aussi dans l'église pour savoir ce qui se passe, pour arrêter les gens et les tuer. Il arrive et il était dans sa tenue. Il demande, il dit, quels sont tous ceux qui sont chrétiens ici qui se lèvent? Personne ne s'est pas levé, sauf le pasteur seul. Il dit, moi je suis chrétien. Alors, il le rentre. Dans la salle de bain derrière, et puis il fait un faux bruit. Le pistolet, puis il sort, suivant, quels sont ceux qui sont chrétiens? Les autres disent, non, moi je ne suis pas chrétien, je suis venu voir ce qui se passe ici. Ils ont commencé à sortir un à un, tous. Et après, le pasteur et le militaire se mettent à prier et disent, tu vois, tu n'as pas de vrais fidèles, tu es le seul chrétien dans cette ville, moi je suis chrétien. Je voulais savoir ce qui était des faux chrétiens, des vrais. Pendant la persécution, qu'est-ce que vous faites? Souvent, on n'a pas une grande persécution ici. Quand je dis, je fais l'évangélisation, je parle à des Québécois. Moi, quand j'ai été persécuté, j'ai été chassé de ma famille pendant 12 années. Quand je les envoyais une lettre, ils me les retournaient sans les ouvrir. Je les envoyais des cadeaux, ils me les ramenaient sans les toucher. C'est comme si je n'existais pas pour eux. Et c'était difficile pour moi. Et j'ai été mis dehors à 22 heures, en 1987. Dans le mois d'avril, j'ai été mis dehors. J'ai perdu mon emploi, parce que l'emploi que j'occupais, c'était mon oncle qui me l'avait donné. Et ma famille venait de me dire, mon père, devant tout le monde, tu n'es plus notre enfant, parce que tu as trahi notre foi, tu as trahi notre communauté, tu as trahi la foi musulmane, tu n'es plus notre enfant et tu mérites d'être tué. Il n'y a pas de bien-être social en Afrique. Pour dire que bon, je n'ai pas de travail, mais je vais m'asseoir pour travailler et gratter mon nombril et puis on va m'envoyer l'argent après. Il n'y a pas ça. J'ai dû tondre le gazon. J'ai dû coiffer des fleurs pour pouvoir subvenir à mes besoins. Parce que j'ai décidé de marcher pour Jésus-Christ. Je ne dis pas que je suis meilleur que vous autres. Mais j'aimerais vous dire que quand vous serez persécutés, au Québec ici, il n'y a pas de persécution aussi grande que ça. La démocratie que vous avez est une démocratie merveilleuse qui vous permet de faire ce que vous voulez. Mais malgré cela, les chrétiens ont peur de s'afficher comme étant des enfants de Dieu. Dieu dit à cette église, tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom, tu as gardé la foi. Dans ton bureau, dans ton travail, est-ce qu'on sait que tu es chrétien? Est-ce que tu as gardé le nom de Dieu? Ou bien tu fais des compromis avec le monde? Un pied dedans, un pied dehors. Pensez-vous qu'un chrétien peut marcher comme ça? Il peut aller loin avec ça? Non. Il faut que vous preniez position. Soit vous êtes pour Dieu, soit vous êtes pour le monde. Et cette église, Jésus le loue. Tu as gardé la foi. Tu as retenu mon nom. Mais j'ai quelque chose contre toi. Malgré toute la persécution qui était là, même il dit, jusqu'au jour même où Antipas a été tué, tu as demeuré fidèle, tu as traversé, tu as confronté la persécution avec victoire. Antipas, c'est qui? La Bible ne nous dit pas assez de choses sur Antipas. Tout ce que nous savons de lui, c'est un chrétien de Pergame qui a été tué au jour de la persécution. Nous ne connaissons pas grande chose de cette personne-là. Mais le peu que nous savons de lui nous démontre quel genre de chrétien était-il. Parce que lui, il a donné sa vie dans l'opposition. Et ce que nous apprenons de la vie d'Antipas ici, un chrétien qui refuse d'être corrompu, qui refuse les compromis avec le monde, qui refuse de ternir son image, qui refuse de ternir le témoignage de Christ en lui. Il est prêt à payer cela, le prix par sa vie. Le sommes-nous? Sommes-nous prêts à mourir pour notre foi en Jésus-Christ? Si quelqu'un se mettait à la porte ici, puis il fermait la porte, puis on fermait l'autre porte, on dit les chrétiens, tenez-vous debout. Le premier qui se lève, on le descend. Est-ce que vraiment nous allons afficher notre foi? Antipas était un chrétien modèle pour nous. Alors, il le dit ici à l'église, au verset 14, il dit, « Mais j'ai quelque chose contre toi. » La chose que Dieu avait contre cette église, il dit deux choses qu'il avait contre elle. La première des choses, c'est qu'elle avait gardé la doctrine de Balaam au sein d'elle et la doctrine des Nicolaïtes. J'ai cherché à savoir qu'est-ce que la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam n'est rien d'autre que le mélange des faux chrétiens avec le peuple de Dieu, des païens avec l'Église. Le mariage des convertis avec les inconvertis. C'est ça, la doctrine de Balaam. Parce que si vous vous souvenez, Balaam était un faux prophète qui a essayé de faire tomber le peuple d'Israël, affaiblir le peuple de Dieu, en conseillant à Balak d'envoyer les Moabites devant Israël et qu'ils vont marier ces filles-là, ils vont se consommer, ils vont commettre l'adultère avec ces femmes-là ou bien la débauche et ils vont manger de la viande sacrifiée aux idoles. Alors que leur Dieu, le Dieu d'Israël, n'accepte pas ça. Ils savaient bien que dans les Écritures, il était écrit qu'Israël ne devait pas se mélanger avec d'autres peuples. Il savait que si Israël faisait cela, il va s'affaiblir. Et ainsi, l'ennemi pourra les battre. Leur Dieu ne sera plus avec eux. C'est ce que Balaam a conseillé à Balak. Aujourd'hui, dans nos églises, est-ce qu'il y a des faux enseignants? Dans l'église de Pergame, il y en avait. On peut le dire que oui, ah, dans notre église au Cap, il n'y a pas de faux enseignants. C'est bon, gloire à Dieu s'il n'y en a pas. Mais est-ce que nous faisons de compromis avec le monde? Essayer d'accommoder le monde dans l'Église. Si nous cherchons à accommoder le monde dans l'Église, c'est que nous faisons des compromis. Parce que le monde doit s'adapter à la vie de Dieu et non l'inverse. Généralement, qu'est-ce qu'on cherche à dire? On dit non, il faut ouvrir l'Église à tout le monde. Il faut que tous les païens puissent venir. Même au repas du Seigneur, on n'a pas besoin d'interdire, d'empêcher les gens. Non, le repas du Seigneur est fait pour le peuple de Dieu, pour ceux qui connaissent le Seigneur et qui veulent adorer le Seigneur. On ne peut pas faire de compromis avec ça. Le peuple de Dieu a de la misère à s'afficher. À dire que oui, moi, je ne fais pas de compromis. Comme je le dis à quelques-uns, dans le travail, tes camarades finissent très tôt ou ils rentrent vite à la maison, 30 minutes avant. Si on dit on finit à 15h, à 14h30, ils sont rentrés dans la douche, ils commencent à se doucher et puis avant même que le temps ne finisse, ils sont sortis de la shop, ils sont partis. Mais toi, tu dois travailler. Tu es un chrétien, mais tu as peur. Que si je reste pour travailler jusqu'à la fin de l'heure avant de sortir, alors les autres vont me critiquer. Je risque d'avoir des troubles ou des problèmes. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas marcher droit ou tu vas dire, non, je vais faire comme tout le monde. Ils volent le patron, mais moi aussi je peux faire pour avoir la paix avec les autres. Ça, c'est des compromis. Dans la parole de Dieu, on voit que d'autres personnes ont fait des compromis. Salomon a été un roi très sage en Israël, un roi qui est reconnu pour sa sagesse, mais Salomon a fait des compromis avec Israël. Salomon a fait des compromis en mariant plusieurs femmes, des femmes étrangères de toutes les régions d'Israël, autour d'Israël. Si nous savons tous que Salomon n'était pas un roi qui était capable de faire la guerre, ce n'était pas un guerrier, mais il a fait des compromis pour garder son royaume tranquille. Le fait qu'il a marié plusieurs femmes ont affaibli Israël, spirituellement parlant. Ces femmes-là ont fait pousser Salomon à se bâtir des hauts lieux, des points d'idolâtrie dans tout Israël, ce que Dieu avait interdit. Voilà pourquoi Dieu demande de ne pas réellement se jumeler avec ces gens-là. On ne doit pas faire de compromis avec eux. On peut regarder les versets qu'il dit ici. Dans 1 Roi, chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères ou autres, les femmes des pharaons, les filles des pharaons plutôt. Moabites et les Ammonites, des Édoniens, des Sidoniennes et des Éthiennes. Dans 1 Roi, chapitre 11 encore, le verset 8, il nous dit, « Et il fit ainsi. » Pour toutes ces femmes étrangères, il offrait des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Néhémie va reprendre cette même illustration pour exhorter le peuple d'Israël. Après avoir bâti les murailles de Jérusalem, Néhémie va reprendre cette même parole. Il dit encore à Israël, des juifs qui s'étaient mariés avec des femmes étrangères, il leur dit ceci. Il dit, « N'est-ce pas en cela ?» qu'a péché Salomon, roi d'Israël. Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de Dieu, il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Les compromis ont affaibli Israël. La débauche sur le plan spirituel entraîne toutes sortes de maux. Une autre forme de mélange que Israël connaissait et que Pergame, l'église de Pergame connaissait, c'était la doctrine des Nicolaïtes. C'est quoi la doctrine des Nicolaïtes? Beaucoup de choses ne sont pas expliquées sur ça. Mais nous pensons que c'était des gens qui abusaient de la grâce de Dieu. Ils abusaient de la grâce de Dieu. Quand on regarde à la fin, ici, dans ce verset-là, il dit, « De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » C'était des gens qu'on croit qui abusaient de la grâce de Dieu, Au lieu de la liberté, ils sont allés dans le libertinage. Dieu est bon, on peut tout faire. Ce n'est pas grave, Dieu est amour. Je peux me marier avec n'importe qui, ce n'est pas grave. Je peux aller manger à la table des païens, ce n'est pas grave. Des viandes sacrifiées aux idoles, ce n'est pas grave. Dieu est bon. Et dans l'église, on acceptait toutes sortes de personnes. On dit, nous, on ne veut pas les juger. Nous sommes wise. C'est comme ça on dit? Nous sommes ouverts. Nous avons les yeux clairs. Nous, on est civilisés. Alors, on ne pourra pas dire à un homosexuel, on n'est pas d'accord avec ton péché, mais on t'aime toi. Si on dit ça, non, tu n'es pas ouvert. Tu es trop fermé. Les chrétiens n'ont pas le droit de mettre leurs convictions au jour. À jour. Et c'est les autres qui peuvent dire leurs convictions. Ils veulent nous dicter ce que nous devons faire. Ce que nous devons croire. Et le peuple de Dieu s'assoit sans agir. Peuple de Dieu, nous devons nous lever. Le problème de cette église de Pergame, l'église de Pergame, contrairement à l'église d'Éphèse avait combattu les faux docteurs. Ils avaient rejeté ceux qui étaient des Nicolaïtes. Ils ont fermé la porte à ces gens-là. Mais ils avaient un problème, ils ont manqué leur premier amour. Ils ont perdu, ils ont abandonné leur premier amour. Mais l'église de Pergame, ce qu'elle avait de force, elle a gardé sa pure. Elle a gardé, elle a été ferme devant la persécution. Et elle a gardé la foi et l'amour pour Dieu, mais elle a perdu sa pureté. Parce qu'elle a fait des compromis. Elle a perdu sa pureté. Nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que les compromis peuvent nous faire? Pourquoi les compromis sont graves? Pourquoi nous ne devons pas faire de compromis? Parce que premièrement, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu dit, vous êtes un peuple saint. Je vous ai appelé pour être saint. Vous êtes mis à part. Vous ne pouvez pas vous comporter comme les autres peuples. Je vous ai appelé pour être mon peuple. Vous serez saints, car moi, Dieu, je suis saint. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous mélanger avec les autres. Deuxièmement, les compromis sont dangereux parce qu'elles affaiblissent le peuple de Dieu. Les compromis affaiblissent le peuple de Dieu. Elle affaiblit l'église de Dieu. Elle affaiblit le témoignage du chrétien. Vous connaissez les thés, les liqueurs, comme on appelle ça, le jus qu'on vend dans des boîtes là. Anne, c'est qu'on prend souvent à la maison là, comment on appelle ça? Les cannes là. Et puis on les ouvre et on met dans un pot là. Si tu mets un verre d'eau, c'est bon. Deux, c'est bon. Trois, c'est bon. Mais quatre, ça devient comment? C'est dilué. 5, ça devient quoi? Eau de vaisselle. Parce que ça ne goûte plus rien. Alors, prenez cet exemple-là. Si le peuple de Dieu que nous sommes, nous commençons à accepter que les païens viennent dans l'église, ils vivent ce qu'ils veulent, ils se prostituent, ils mangent, il n'y a plus de caneva pour nous, et que nous avons perdu notre vraie identité de Dieu, et que nous les laissons faire, on va adapter l'église à eux, au lieu que ce soit eux qui s'adaptent au peuple de Dieu, qui se convertissent. Qu'est-ce qui va arriver? L'église va faiblir. L'église va perdre son identité. L'église va perdre son rôle. L'église va perdre sa valeur. L'église va perdre réellement tout ce qui faisait d'elle le peuple de Dieu pour être différent des autres et pouvoir influencer le monde. Parce que l'église demeure jusqu'à présent, en 2008 bientôt, l'église demeure et sera la boussole et le gouvernail du monde. Si les gens, quand ils vont se perdre, ils viendront vers l'église. Les gens nous demandent, pourquoi dans votre église, il n'y a pas de femmes pasteurs? Pourquoi dans votre église, il n'y a pas de femmes qui soient anciennes? Pourquoi dans votre église, on ne permet pas aux femmes de légiférer, de marier les hommes et les femmes? Pourquoi dans votre église, les hommes ne peuvent pas se marier avec les hommes, les filles avec les filles? Alors si vous ne faites pas ça, vous êtes trop fermé, vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas à la mode, vous êtes dépassé par le temps. Nous ne sommes pas là pour être à la mode. Nous ne sommes pas là pour être dépassés par le temps ou bien rattrapés par le temps. Nous sommes là pour donner le son de cloche. Nous sommes là pour briller, pour influencer le monde selon Dieu. Amen. C'est ça le rôle de l'Église. Après l'exhortation que Dieu donne à cette Église de Pergame, il dit « Repends-toi. Repends-toi, sinon je viendrai à toi et je combattrai, je les combattrai. » À partir du verset 17. Pardon, à partir du verset 16. Il dit « Repends-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » L'exhortation que Dieu donne à l'église de Pergame, il les montre leurs fautes, il les qualifie, il les fait des éloges, il les loue pour leurs bonnes actions, et puis il montre qu'ils ont un problème, il donne une solution. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne donne pas 50 000 solutions dans cette affaire-là. Quand je vais à l'hôpital parce que je suis malade, le médecin me consulte et après il me donne une panoplie d'ordonnances, ben je ne vais pas mépriser les médecins là, mais ce que je veux dire là, c'est pour dire que c'est quelque chose de vrai. Il te donne une ordonnance, qu'est-ce qui se passe dedans? Une liste kilométrique de médicaments à prendre pour soigner ton mal. Combien d'entre nous ici ont des panoplies de médicaments à prendre? Hein? Il y en a beaucoup. Élevez vos mains, on va prier pour vous après. On va prier pour vous que Dieu vous guérisse, s'il le veut. Et on prend des pilules plusieurs pour pouvoir guérir. Même c'est devenu une industrie pour les pharmaciens. Mais ici, Dieu donne un seul médicament. Une seule pilule à l'église de Pergame. Il dit, repends-toi. Tu veux guérir de ton mal. Tu veux guérir de tes problèmes. Repends-toi. Peut-être tu as fait le compromis avec le monde. Peut-être tu n'es pas capable de t'afficher comme chrétien. Peut-être tu as nui au témoignage de Christ. Peut-être dans ton travail, tu acceptes des choses inacceptables. Tu tolères des choses intolérables. Ce matin, Dieu te dit, repends-toi. Ce matin, Dieu nous dit, repentons-nous de nos faiblesses. Là où ça ne va pas. Et la pilule qu'il donne, c'est ça. Il n'y a pas d'autre remède. Il n'y en a pas d'autre. C'est la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est faire demi-tour. La repentance, c'est quoi? C'est reconnaître son péché, l'avouer devant Dieu, l'abandonner et marcher de nouveauté avec Dieu. Amen. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Il appelle l'église de Pergame à la repentance. Repends-toi, Pergame. Et à ceux qui vont se repentir, il dit, la repentance, quand ils vont se repentir, il dit, je leur donnerai la manne cachée. Il fait une promesse. La manne cachée qu'il donnerait aux vainqueurs. Ici, Dieu n'oublie pas notre œuvre. Il n'oublie pas la lutte que nous faisons. Et les vainqueurs seront récompensés. Dans le monde, on récompense les vainqueurs. Et quelques années, ils sont oubliés. Mais ceux-là seront récompensés et ils ne seront jamais oubliés. Dieu va les récompenser. Au verset 18, il dit quoi? À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui l'a reçu. La manne cachée, j'ai cherché à comprendre. Nous savons qu'Israël, quand pendant 40 ans dans le désert, a été nourri par la manne. Et Dieu a dressé une table pour se racheter, pour les nourrir. Mais ici, il parle encore de la manne cachée qui est une nourriture spirituelle. C'est une nourriture spirituelle que Dieu va donner à ceux qui sont vainqueurs. Dieu donnera cette nourriture-là aux vainqueurs. C'est ce qu'il dit ici. La nourriture spirituel. Dans Jean chapitre 6, Jésus se présente comme étant la nourriture spirituelle. Il dit, si vous mangez, vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie qui vient du ciel. Ce pain de vie est un pain de vie qui est caché aux yeux des païens. C'est un pain de vie que le monde ne peut pas voir et comprendre et manger cela. Il ne peut pas avoir accès à ce pain-là. Sauf ceux qui sont des vrais enfants de Dieu. Et aussi, d'autres interprétations nous disent que c'est aussi une forme de communion que le peuple de Dieu pourra avoir au ciel avec Dieu dans le banquet de Dieu. Le caillou blanc, je ne m'attarderai pas dessus parce qu'il y a plusieurs interprétations sur ce point-là. Mais tout ce que je peux vous dire, le caillou blanc est une récompense pour les vainqueurs. Et le Christ dit qu'il y a un nom qui est écrit dessus. que personne ne connaît sinon celui qui reçoit ce caillou-là. Pour dire que personne ne sera oublié et que les vainqueurs seront récompensés. Que vous aurez de la récompense au ciel si vous combattez le bon combat. En conclusion, qu'en est-il de notre Église? Quelles sont ses forces et ses faiblesses? Que lui écrirait réellement aujourd'hui si Jésus devait nous écrire quelque chose? Que lui écrirait Jésus aujourd'hui? Si le Seigneur devait nous adresser une lettre, comme il a fait avec l'Église de Pergame, qu'est-ce qu'il va nous reprocher dans cette Église? Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, je vous adresse cela. Est-ce qu'il dira que nous sommes tolérants? Est-ce qu'il dira que nous sommes loin des Écritures? Est-ce qu'il dira ou bien que nous sommes trop ouverts ou bien nous sommes trop fermés? Moi, je dirais une chose. Nous connaissons les Écritures à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, pas pour se vanter parce que les gens le disent. On a de bons prédicateurs et de bons enseignants que Dieu a donnés à l'Église. Je ne parle pas de moi, je parle de ceux qui sont plus grands que moi dans cette maison. Mais peut-être que le Seigneur dira à l'Église du Cap, vous êtes tellement sérieux, vous êtes tellement sincères avec moi, vous êtes tellement forts dans la foi chrétienne, vous êtes tellement poussés que vous voulez, vous avez fermé toutes les portes, vous êtes sérieux pour garder la doctrine pure au point que quelquefois vous empêchez des bonnes choses de rentrer. Tellement que vous voulez garder l'Église pure, au point que vous empêchez quelquefois des bonnes choses de rentrer. Peut-être que l'Église, le Seigneur dira cela. Malgré tout l'effort que nous faisons, je ne suis pas là pour mettre qui que ce soit au tribunal pour juger, mais c'est à chacun de nous, pensons. À la fin, quand nous regardons ce message, nous pouvons voir dans 2 Corinthiens, j'aimerais que nous regardions dans 2 Corinthiens, versets 6 à 17, et il nous parle de cela. Excusez-moi, je vais terminer ce point. 2 Corinthiens, chapitre 6. À partir du verset 14, je vais le lire. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur nous invite à sortir du milieu de ces gens-là ou de les sortir du milieu de nous. Si on ne peut pas sortir nous, on peut sortir du milieu d'eux. Et aussi dans 2 Timothée, il nous dit ceci aussi, que quiconque invoque le nom du Seigneur, s'éloigne de l'iniquité. À la fin, au verset 17 de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci de nous avoir enseigné, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme l'église de Pergame, mais tu connais les forces et nos faiblesses de chaque église. Comme ces églises du Nouveau Testament ou de l'Apocalypse avaient des faiblesses, nous aussi au Cap, nous avons des faiblesses que toi tu connais, peut-être que nous ignorons nous-mêmes. Mais nous prions que tu nous guérisses de nos faiblesses, que tu ouvres nos yeux, que nous voyons là où nous sommes faibles, en tant qu'église, en tant qu'individu. Nous te demandons de nous guérir, de nous délivrer de nos faiblesses et de nous aider à les enlever de notre vie et à marcher comme une église forte qui glorifie ton nom. Merci pour le reste de ce temps. Et bénis ton peuple pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hein? Le verset, il dit, repente-toi. Ouais. Merci, mon frère. Dieu vous bénisse. On se verra.